France Musique. C'est l'été sur France Musique.
Il est 8h30 et il est temps d'accueillir notre invitée du jour, c'est la mezzo-soprano Lucile Richardot. Bonjour Lucile.
Coucou à tous.
Alors vous, les frères Jacques, vous connaissez par
ouais,
cœur. Hein.
Par cœur, j'étais presque par cœur là, par deux, trois variantes bruxellaires.
Ah oui, la chanson
était spécialisée, genre.
Je sais pas si c'était que les Bruxellois. Je pense que c'est les étudiants de tout pays, les
oui,
étudiants en médecine
vous.
En particulier. Oui, la chanson paillarde aussi, ça vous connaissez?
Ah ouais, ouais, carrément. Ouais, j'en ai fait autrefois avec des amis quand j'étais dans le circuit amateur.
Ah oui, donc voilà. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'être en études de médecine pour chanter la chanson paillarde.
Ah non, faut juste faire un peu de polyphonie de temps en temps.
Exactement. Bah d'ailleurs, tiens, je pense à un truc. Vous avez déjà chanté la musique de Sébastien de Brossard?
Bien sûr.
Eh bien, je ne sais pas si vous savez que Sébastien de Brossard, qui était prêtre, compositeur, contemporain de charpentier, il a écrit des tonnes de chansons paillardes, lui aussi. Mais
mince,
sous un faux nom.
Mais voilà. Pourquoi on ne fait pas ça avec correspondance?
Il faut demander à Sébastien Dossé pour le prochain disque, après les septèmes verbas. Est-ce que vous passez un bel été, Lucile Richardot?
Oui, plus que studieux, pour le coup, vu qu'on parlait d'étudiants en médecine. Voilà, je fais ma petite médecine à moi.
Mais oui, il était bien rempli quand même. Vous étiez à Aix-en-Provence.
Ouais. Alors, il y avait les trucs normaux et puis les trucs reportés de l'année dernière. Donc, c'est bien plein, l'agenda.
Aix-en-Provence, où vous avez participé au Combattimento, la théorie du signe noir.
Tout
c'était un spectacle un peu métaphysique,
tout
presque.
Et graphique.
Et graphique. On peut toujours réécouter, en tout cas pour le son, sur francemusique.fr. Il y a encore quelques jours de réécoute. On vous y a entendu notamment dans un extrait de La Didone et de Cavalli. C'est déjà Cavalli que vous chantiez dans le Ballet Royal de la Nuit, enregistrement avec l'ensemble Correspondance de Sébastien Dossé. Est-ce que c'est un compositeur qui vous satisfait vocalement? Est-ce que la voix est à l'aise dans Cavalli?
La voix est à l'aise, surtout quand c'est écrit vraiment pour soi, parce que dans le Ballet de la Nuit, ce que je chantais, c'était un air de Giunone dans Ercole Amante, et c'est quand même un peu plus écrit pour soprano. Et donc, on avait un peu bidouillé des choses là. Et Cube, dans la Didone, c'est vraiment écrit pour contralte. Et limite un peu trop grave. Il me l'avait remonté d'un ton, mais chut, il ne faut pas le dire.
Oui, mais en même temps, est-ce que c'est très grave? Parce que finalement, c'est une musique qu'on peut légèrement parler, chanter, celle de Cavalli.
Oui, c'est ça. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont proches de la voix parlée. Surtout quand on a affaire à un compositeur italien qui compose dans sa langue, c'est quand même plus facile. En comparaison de Handel, par exemple, au début de sa carrière, quand il commençait à composer en italien, il ne maîtrisait pas forcément l'italien.
Ah, il y a des problèmes de prosodie?
Oui, des fois ça peut arriver, donc il faut recaler un peu le texte parfois. Oh, les pauvres, c'est pas trop grave. Mais la musique est tellement belle. Et pour Cavalli, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut s'autoriser. Alors, un jour, il faudra qu'on m'explique pourquoi, les musicologues sont sans doute sur le coup, mais toute la musique de cette époque-là, on peut l'adapter pour soi aussi. C'est chose qu'on se permettrait plus avec Rossini ou même Mozart. Et je ne sais pas pourquoi ça. On se donne des libertés, mais du coup, ça nous permet de faire rentrer des choses dans des cases assez sympathiquement.
Peut-être parce que les compositeurs ont voulu fixer à un moment donné leur musique. Ils ont voulu prendre le pouvoir.
Il y a peut-être encore des ayants droit vivants.
Voilà.
Que Cavalli.
En tout cas, vous chantez toutes, puisqu'on parle des langues, vous les chantez toutes. Enfin, en tout cas, toutes les langues du baroque connues. Anglais,
ça.
Italien, français, allemand.
Et même du suédois. Voilà, dans le disque, justement, puisque vous en parliez de Buxtehude, il y a une pièce en suédois.
Exact.
Et on a eu un coaching en suédois. Quoi. Enfin,
ouais. C'est voilà. Quoi la langue la plus confortable pour vous?
Je crois qu'il n'y en a aucune.
Ah ouais.
Ouais. Même le français, c'est pas confortable.
Bah ça, généralement, les chanteurs disent que c'est la plus compliquée. Alors, même les français. Bon, on va écouter de l'italien alors.
Allez, par défaut.
Mais oui, dans le Ballet Royal de la Nuit, vous m'avez dit que c'était Junon. Moi, je croyais que c'était Vénus que vous chantiez.
L'air de Venere
et les Grazie.
Ah oui, pardon, je confonds avec l'air que chantait Caroline Meng, ma grande copine. Coucou. Non, effectivement, c'est Vénus. Vénus, Venere.
Allez, Venere.
Voilà.
Scogliosi il rito, mostrò si frido. non regge il mor, non regge il mar, chiamato al mar, tutti vi amor.
Sogno si rigido, mostro si frigido, non regge il mar, non regge il mar, chiamato al mar, tutti vi
giusta forza correggi, sì, con soave incanto, che il dominio d'amore forzi la più conforme, supero la tua pro, spero le rigore, che maligna fortuna sempre mio figlio oggi al giardin dei fiori i dolci, i dolci, i dolci, i dolci effetti. Vanno al loco i mattini, i fagioli cui vi si renda pria che manchi il sole. Ch'io dell'armi provvista onde sua ferita vince presumo, preverrò diligente i direi passi per disporre qui pria che la vicciunga rovente acuta strade che perde l'anda e punga. Strade invisibile chi l'inevitabile tal forza avrà che all'insensibile piaga più gradito, con più felicità le gioie infida. Chi l'amor l'allegrezza, come il ciel più gradito, con più felicità le gioie infida.
Un extrait de la quatrième entrée de la troisième partie du Ballet Royal de la Nuit. C'était l'air de Vénus et des Grâces, la musique est de Cavalli, avec vous Lucile Richardot, entourée d'autres chanteuses, Violaine Le Chenadec, Amandine Trenck et Dagmar Saskova, l'ensemble correspondance de Sébastien Dossé. Dans cette partie-là, ouh là, vous faites des yeux.
Ouais, je
bizarres.
Crois que c'était pas eux qui chantaient là présentement. Il y avait David Tricou. Et il devait y avoir Caroline Bardot aussi.
Ah,
mais Violaine Le Chenadec.
C'est ce qui était indiqué sur le disque. Alors bon, peut-être.
D'accord.
Ouais. En même temps, vous savez, il faut décrypter parce qu'il y a plein de petites parenthèses avec des initiales. Alors c'est un jeu de pistes,
les disques de
correspondance. Ouais. La musique italienne. Alors je sais pas s'il y en aura d'ailleurs, puisque dans le prochain concert que vous donnerez le 8 août, vous serez au Musical de Normandie.
Tout à fait.
À Varengeville-sur-Mer. En duo cette fois avec le claveciniste Jean-Luc Haut pour un programme autour des magiciennes du baroque. Alors on entendra quoi là exactement?
Alors on va entendre de l'italien, de l'anglais et du français.
Mais est-ce qu'on parle des compositeurs?
Alors du Handel,
ouais.
Du Purcell, du William Webb, du Colin de Blamont.
Oh c'est chic ça.
Voilà, très chic, du Charpentier. Et puis, évidemment, j'en oublie, du Cavalli, tiens, pour changer.
Ah ben voilà, ouais. Des magiciennes, des sorcières, c'est ça, que des personnages
c'est
comme ça.
C'est ça, c'est Médée, Circé et Armide. Il y en aurait eu plein d'autres, mais il fallait se limiter, sinon on ne peut pas saouler le public avec tout ce qu'on aime.
Bah, surtout, c'est des personnages qui ont tellement inspiré les compositeurs qu'il y en a des centaines.
Exactement.
Est-ce que ce n'est pas d'ailleurs la chanteuse d'opéra? Est-ce que ce n'est pas une enchanteresse à sa manière? Un peu une sorcière.
Si, complètement. Ouais. Et puis avec tous les pouvoirs, ça permet de faire tout plein de circonvolutions dans la voix. Les compositeurs s'en délectent pour faire des trucs bizarres. C'est l'occasion d'expérimenter. Sous couvert d'ensorcellement.
En parlant de trucs bizarres, et c'est pas bizarre, mais c'est un peu plus rare. Non, mais il y a un projet.
C'est étrange.
Vous avez un projet, Lucile Richardot, un projet alors là, qui est un petit peu, c'est comme un pas de côté, c'est un projet sur un répertoire qui est beaucoup moins connu, c'est un projet au long cours, hein. C'est en cours même, c'est l'enregistrement des cantates d'Alessandro Scarlatti, inédites pour la plupart, avec le claveciniste Philippe Grisvard. C'était un projet de Philippe à l'origine ?
Oh oui, complètement, parce que moi j'en serais bien incapable. Il s'est amusé à aller chercher un maximum de cantates, parce que quand on parle de disques de cantates de Scarlatti, ça ne peut être malheureusement qu'un tout petit extrait, un tout petit soupçon de cantate de Scarlatti, parce qu'il en a écrit des centaines.
Plus de 700, je crois.
C'est ça. Ouais. Et je crois que Philippe s'est amusé à en transcrire entre 200 et 300. Le boulot de titan. Parce que, évidemment, il n'y a quasiment rien qui a été édité, à part quelques tubes qui ont quand même été enregistrés déjà dans les 20 dernières années qui nous ont précédés. Et du coup, il faut se faire le matériel, comme souvent en musique ancienne. Mais Scarlatti, Alessandro Scarlatti, c'est pas si ancien que ça, quand même. Mm-hmm. Il pourrait être un peu plus grand public. Du moins au niveau de ses cantates. Et le matériel est assez inaccessible, donc il faut parcourir les bibliothèques, emprunter les partitions, les retranscrire et essayer de faire un peu sa propre édition, ce dans quoi s'est lancé Philippe. Et donc, vous parlez d'un projet au long cours parce qu'on a déjà commencé des résidences de travail, de lecture, on en a lu énormément.
À l'Académie Bach.
Alors, Ça a été le point d'aboutissement cette année, qui a fait l'objet d'un concert filmé. Mais on avait fait deux résidences de travail au château de Lassay, dans la Mayenne normande. Et ça remonte déjà bien avant le confinement, je crois même déjà 2018 ou 2019. Non, peut-être plutôt 2019. Voilà.
C'est un projet, je le dis au passage, qui est soutenu par mon ami Xavier Carrère, que les auditeurs connaissent bien, puisque c'est lui qui m'assiste avec beaucoup de courage pendant toute l'année.
C'est vrai, il en faut du courage.
C'est-à-dire, mais c'est un vrai passionné. Et il a beaucoup soutenu ce projet.
Son sujet il connaît à fond, quoi. Il a édité des choses sur Scarlatti, donc il a pu bien nous conseiller.
Il a même participé aux traductions, je crois.
Voilà, exactement, parce qu'on a vraiment des traductions assez fantaisistes et c'est très très compliqué la poétique de cette époque-là à comprendre.
Alors, en même temps, vous dites que c'est une musique dont on n'a pas beaucoup de traces. En même temps, par essence, c'était un peu de la musica reservata. C'était pas destiné au grand public.
Exactement,
de toute façon.
Comme beaucoup la musique de cette époque-là, hein, c'était réservé à des cercles de privilégiés. Et là, en plus, c'était un cercle de privilégiés dans les privilégiés, parce que c'était les trucs d'Arcadie, là, les gens qui se croyaient au-dessus de tout. Donc forcément, ils ont gardé un peu la musique entre soi et notamment l'édition. Je ne sais pas si ça a été beaucoup édité ou alors à d'auteur ou c'est resté dans des malles. Je peux pas trop en dire plus sur la diffusion, je ne sais pas.
Alors on va en écouter un extrait puis on en reparle après.
La crudeltà.
Un extrait de la cantate La Dove Amargelina d'Alessandro Scarlatti, Amakitama. C'est le premier air qui apparaît avec vous, Lucille Richardot et Philippe Grisvard au clavecin. Cet extrait donc de la vidéo, concert vidéo qu'on peut voir sur le site de l'Académie Bach qui héberge donc le premier rendu de ce projet qui sera un disque enregistré peut-être au printemps prochain.
Oui.
Donc pour une sortie encore ultérieure chez Audax,
Audax Records. Records. Ouais, ouais. C'est le label de Johannes Pramsøller qui est diffusé par Piass et donc ça rejoint quand même Harmonia Mundi, pour les gens qui se choqueraient.
Voilà, qui est votre label, qui est votre label maison.
Voilà.
On le disait, ces cantates, donc vraiment des œuvres qui étaient faites pour l'entre-soi. Et alors, il y a une particularité, c'est que Philippe Grisvard a voulu vous accompagner au clavecin seul. On est habitué souvent, pour ces cantates à voix seule, d'avoir un clavecin et puis
une basse d'archet,
par exemple, une viole de gambe.
Ouais. Ah ouais.
Et là, c'est clavecin seul. C'était vraiment un parti pris.
C'était un parti pris qu'il justifie dans sa note d'intention, d'ailleurs. qui dessine au concert. Oui, il y a des recueils, enfin des traités de l'époque qui prônent ce type d'accompagnement très très épuré, qui donne toute liberté au clavecin, du coup, d'être très très bavard. Là, on a entendu qu'il faisait et en fait, quand on garde la basse, c'est juste une basse qui descend avec des noirs. Donc ça donne libre cours à l'imagination et surtout à la volubilité de l'interprète.
Est-ce que c'est une musique qui est particulièrement difficile à chanter, Lucille Richardot ?
Ouais, parce que comme on l'a entendu, c'est très tortueux et les tessitures sont très longues. Et bon, là, comme je disais tout à l'heure, qu'on bidouille pas mal de choses, on transpose quand ça nous arrange. Là, on n'a rien transposé du tout, c'est juste Philippe qui m'a autorisé un diapason à 392 qui était historique à l'époque à Naples, autour de 1700. Donc ça m'arrange bien, le truc historique.
Oui, mais en même temps, vous êtes tout terrain, Lucille Richardot.
Complètement.
Je dis ça parce que quand on regarde votre répertoire, ça part du baroque et puis de plus en plus maintenant, 19e, 20e.
Ah oui.
Berio, la séquenza de Berio pour voix seule sur le disque des Cris de Paris.
Et oui.
Il y a quelques mois. Et puis il y aura en 2023 les Troyens de Berlioz. Aussi,
ouais.
Avec Johnny Gardiner pour ses 80 ans. Vous avez déjà travaillé avec lui d'ailleurs.
Oui, on a déjà 3 productions ensemble.
Ouais. Il est comment, Gardiner ? On dit toujours qu'il est un peu dur.
Ah ben, il faut jamais me demander ça, voyons.
Ah bon,
je vais pas scier la branche sur laquelle je suis assise. À chaque fois, les gens attendent de moi
des
scoops.
Vous allez me dire qu'il est exigeant, c'est ça?
Exactement. Non, mais il a son caractère, comme tout le monde. Voilà. Mais c'est ce qui fait sa célébrité et son charme.
Et puis son talent aussi peut-être.
Son talent.
Parce que c'est voilà, être exigeant, c'est pas forcément une mauvaise chose.
Voilà.
On va donner quelques dates avant de se quitter, Lucille Richardot.
Tout à fait.
Le 30 juillet, dans quelques jours, vous serez au Temple luthérien d'Héricourt au festival Musique et Mémoire pour un spectacle qui sera repris d'ailleurs à
Ambronay
à la rentrée. Le voyage d'Anne de la Barre en Septentrion, c'est quoi? Ça veut dire quoi ça?
Alors ça veut dire voyage d'Anne de la Barre dans le Nord, parce qu'en fait, elle a été invitée par Christine de Suède.
Oui, mais c'était qui? C'était une chanteuse?
Ah oui, pardon. Ouais. C'était une chanteuse phare qui a fini chanteuse professionnelle. professionnelle quand même à la cour de Louis XIV. Et donc c'était la fille de Chabanceau de la Barre, ou la sœur, je ne sais plus. Enfin bref, c'était toute une lignée de musiciens. Et donc on interprète des pièces de sa famille aussi. Elle est partie en pèlerinage comme ça, à l'invitation de Christine de Suède, à travers les Pays-Bas. Donc on a aussi des œuvres de Constantin Huygens qui l'a invité chez lui. Et après, ça redescend, elle est redescendue par le Danemark. Et au moment de l'abdication de Christine de Suède, elle est revenue en France couronnée de laurier. Mais elle était déjà très très en vogue quand elle avait 17 ans avant de partir en Suède. C'est pour ça qu'elle avait reçu l'invitation.
Christine de Suède, qui était venue à Rome d'ailleurs.
Tout à fait.
L'Arcadie, qui avait participé à l'Arcadie.
Ouais, tout se rejoint,
tout se recoupe. Qui avait intégré Alessandro Scarlatti.
Voilà.
La boucle est bouclée. Le 8 août, au Festival Les Musicales de Normandie autour des magiciennes baroques. Le 20, vous serez à la Chaise Dieu pour un programme Bach, la messe en si.
La messe en si avec Nicole Corti, que j'ai retrouvé 15 ans après la maîtrise de Notre-Dame de Paris.
Et puis il y aura le Festival d'Utrecht.
Ouais.
Ça, c'est un des plus grands festivals
baroques.
Ça,
on croise
aussi
les doigts parce qu'on a toute une résidence avec correspondance et malheureusement, on tend le dos avec ces histoires de fermeture de salles.
Mais oui. Et puis de circulation. On ne va pas donner toutes les dates parce qu'il y en a beaucoup.
Trop.
J'allais dire, on pourrait aller sur votre site internet, mais non, parce qu'il n'y en a pas.
Toujours pas. Mais... pas d'agent, pas de site, le boulet intégral.
Il faudrait quand même, faire quelque chose.
Il y a
pour
des
ça,
choses sur le site d'Harmonia Mundi et sur un site Opéra Base. Il y a plein de choses qui peuvent pallier.
Bon, on parlait de Jean-Juliette Gardiner il y a quelques instants. Vous avez enregistré cette année, enfin publié en tout cas cette année, la Sémêlée de Handel.
Oh, c'était déjà l'année dernière.
C'est l'année dernière, oui, c'est vrai. Et dans laquelle vous chantez l'air de Junon, qui, comme d'habitude, est en colère.
Sinon, elle n'aura plus de charme non plus, elle.
Merci, Lucile Richard, d'être venue nous voir ce matin sur France Musique.
Merci pour l'invitation.
Ah, ça c'est la cadence virtuose, hein, Lucille Richardot. C'était l'air de Junon, Hence Iris, Hence Away, extrait de C'est mêlé, l'acte 2 avec vous Lucille Richardot, les English Baroque Soloists sous la direction de John Elliott Gardiner. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Vous êtes hilar, Lucille Richardot. C'est la musique
pas.
Qui vous fait rien.
Ouais, je pense.
Oui. Alors bah, tiens, je vais vous poser la question du jour. La question, oui. C'était quel est l'instrument préféré de Louis XIII ? Est-ce que c'était le violon, le luth ou le clavecin ? Vous
le
savez.
Le synthétiseur, évidemment. On va dire que c'était le luth.
Oui, c'était
le petit luth.
Le petit luth, exactement. Excellente réponse. Il avait même commencé l'apprentissage du luth à l'âge de 3 ans.
Oh. Voilà,
il l'avait imposé à la cour, il organisait des concerts privés autour du luth.
C'est Mozart qu'on a assassiné en le mettant sur le trône.
Louis XIII, qui était compositeur aussi,
voilà,
Lucille Richardot, qui avait composé le ballet de la Merlaison, qui était le ballet de la chasse aux merles donné à Chantilly et à Royaumont en 1635.
Il avait du talent,
déjà
à Louis XIII.
Ben oui. Alors bravo à nos gagnants du jour qui vont repartir avec votre disque,
c'est
Les Plaisirs du Louvre. Vous êtes dessus,
mais
avec
oui.
Sébastien Dossé. Mmh. Bravo à Benoît Van Am de Paris, Alba Auvray de Sauve dans le Gard, et puis Nicolas Buisson de Saint-Priest-la-Feuille dans la Creuse.
Ça fait voyager.
Allez, on reste à l'écoute de France Musique. La journée ne fait que commencer. Dans quelques instants, à 9h, c'est l'été classique de Charlotte Landru-Chandès. Bonjour Charlotte.
Bonjour Clément.
Charlotte, est-ce que vous pouvez nous parler du programme, des réjouissances à venir de ce matin ?
Eh bien, aujourd'hui, dans l'été classique, on va danser tarentelle, habanera, valse et saltarello au programme. Et à 11h, on retrouvera Anne-Sophie von Otter, notre grande interprète de la semaine.
On peut venir avec Lucille Richardot danser dans votre studio ?
Oh bah oui, venez, vous êtes les bienvenus.
Eh ben, on arrive. Lucille, vous serez là ?
Allez,
ouais, elle adore
un
danser.
Autre café, j'arrive.
Un autre café et on arrive. C'est à 9h, Charlotte Landru-Chandès, l'été classique. Quant à moi, je vous retrouve demain matin à 7h30. J'aurai le plaisir de recevoir le pianiste Arkady Volodos pour fêter, non pas l'ouverture du Festival de la Roque d'Anteron, mais le début de la présence de France Musique à la Roque. Un grand merci à toute l'équipe technique, Laure Poissonnier, Lara Castiglione. Merci à Maël Larfassor et Youtou Diego Aclopès à la technique. L'émission a été réalisée, comme tous les matins de l'été, par Théicia Froidure. Allez, je souhaite une très bonne journée. À demain, je vous embrasse.
À réécouter sur francemusique.fr.